shit.
Hollywood bravado, Molotov and torture bullshit. Hardcore belligerence, hard form ridiculous, ripping vicious deliverance, carved apart.
Pour faire le plein de nouveautés musicales, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 20 février au 8 mai, réservez vos lundis pour découvrir les 21 participants de la cuvée de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Sur scène, trois artistes ou formations par soirée, en plus d'un invité surprise. Pour tout savoir sur la programmation, visitez francouverte.com. Cette année, quels seront vos coups de cœur musicaux? Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la 11e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes en musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 12 avril au club Balatou. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com.
Minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Vous en avez assez de faire des photos moches? Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits, on vous tient au courant des dernières nouvelles en matière de photographie et on vous suggère des sites ou des photographes à suivre. Tous les samedis, 13h.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à tous nos auditeurs. Vous écoutez La Photomédia sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Ce soir, soyez indulgents parce que c'est moi qui m'occupe de faire la régie. Nous avons une équipe réduite ce soir. Je suis en compagnie de Corinne Asselin. Baptême du feu, Corinne, bonsoir.
Toi, ce soir, tu vas nous parler de...
Petit pépin. Corinne, tu m'entends? Attends, Corinne, j'ai pas activé ton... Oui.
Oui.
Yes, OK.
Yeah, on l'a eu.
On l'a eu.
Bonsoir, Émilien.
Bonsoir. Donc là, on a des petits pépins parce que je sais pas comment fonctionne le système, donc tout va se régler. Ce soir, à l'émission, on parle de politique française.
Oui.
Donc, on n'est pas tout seul, en fait, par la magie des choses. Nous avons Charles qui va nous parler de politique française, de comment ça fonctionne. On s'est entretenu un peu plus tôt avec lui et je vous laisse entendre ce qu'on s'est dit plus tôt.
Donc Charles, toi ce soir, tu vas nous parler de la politique française, de que c'est que c'est, est-ce que c'est différent de la politique québécoise? Parle-nous-en.
Exactement, je vais parler un peu du système politique français. Bon, je vais pas tout couvrir, parce que ça c'est du stock pour comme 45 heures de cours, là. Mais je vais me concentrer surtout sur comment fonctionnent les élections, puis le système en général, comment ça fonctionne. Donc, le système... C'est assez semblable au système québécois pour le pouvoir. Donc, c'est un système bicaméral qui a deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. À l'Assemblée nationale, c'est des élus qui sont des députés et au Sénat, ils sont nommés. Je suis plus certain.
Alors, c'est franchement, ça. Charles.
Je suis plus certain, je suis confus. Bref, comment ça fonctionne, les élections? Mais il y a plusieurs élections, comparément au Québec aussi, on a plusieurs élections, mais c'est toute la même affaire. Là-bas, il y a des élections présidentielles, les élections législatives et les élections sénatoriales. Les élections présidentielles, cette année, ça va être à la fin avril, et s'il y a un deuxième tour, ça va être au début mai. Cette élection-là, ça élit le président de la République pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct, donc pas comme aux États-Unis où c'est indirect.
Peux-tu développer là-dessus?
qu'est-ce que j'ai à développer là-dessus? Ben, c'est l'électeur qui vote pour le président, puis il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux.
Et c'est quoi l'intermédiaire aux États-Unis? Les grands électeurs.
Exactement.
Donc, pas de grands électeurs. Donc,
c'est ça, il
n'y
a
beaucoup
pas de grands
simple,
électeurs.
Donc,
c'est plus
France.
Simple et plus démocratique.
D'accord.
En théorie. Pour gagner la présidentielle, il faut obtenir la majorité absolue, donc plus de 50%. Sinon, il y a un deuxième tour qui se passe très exactement 14 jours plus tard. Le deuxième tour inclut uniquement les candidats qui ont reçu le plus de votes, les deux candidats qui ont reçu le plus de votes. Petit fait intéressant pour les élections présidentielles de cette année, François Hollande, c'est le premier président de la 5e République à ne pas se représenter pour un second mandat, qui est quand même impressionnant.
Je me demande pourquoi.
Ben, il y a plusieurs raisons. Son faible niveau dans les sondages, qui a été soulevé par plusieurs personnes. Il y a aussi la controverse du livre de son ancienne compagne, qui s'appelle « Merci pour le moment », qui présente le chef d'État comme cynique, dénué d'affection et méprisant envers son électorat. Pas un bon livre pour faire monter des sondages, mettons. Aussi, c'est la première fois que les primaires françaises où les chefs de chaque parti sont élus sont ouvertes. En bref, pas besoin d'être un membre de parti pour voter pour le chef de ce parti-là.
Oui, il y a beaucoup de partis qui veulent peut-être se diriger vers ce mode de scrutin-là ouvert pour choisir leur chef. Le Parti québécois, récemment, au moment d'élire le chef aux dernières élections, a voulu peut-être, mais finalement a décidé que ce serait trop compliqué, n'a pas voulu ouvrir à tout le monde. C'est intéressant comme principe, parce que ça permet à des gens qui ne sont pas sympathisants de ton parti nécessairement de...
Puis qui ne veulent pas nécessairement lui donner de l'argent.
C'est ça.
Mais il y avait une grande controverse avec ça quand même en France, parce que pour, mettons, voter pour la droite, il fallait remplir un billet qui confirmait, en fait, si l'électeur était vraiment... embrassait les valeurs de droite, en fait. Et il y a plusieurs électeurs de gauche qui voulaient aller voter pour la primaire de droite pour, bien sûr, voter pour le candidat qui aimait le moins.
Saboter
les résultats, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient est-ce que c'était éthique de signer quand même, conformer quelque chose ou de ne pas le faire. La question était lancée par rapport à ça.
Ouais, c'est quand même une question intéressante. Sinon, il y a les élections législatives. Cette année, c'est en juin. C'est là qu'on élu les 577 membres de l'Assemblée nationale, donc les députés, pour un mandat de 5 ans dans les circonscriptions. Donc, c'est assez semblable au système québécois. Il y a un représentant par comté ou par
Oui, donc ça c'est particulier parce que le président est choisi avant les députés.
Avant les députés, ce qui est quand même curieux. Par rapport au système québécois où on élu des députés... ceux qui ont le plus de députés ont un chef qui est élu. C'est curieux, mais pourquoi pas?
C'est plus intéressant, la séparation des pouvoirs est plus réelle dans le système français.
Ouais,
parce
clairement.
Que nous, on a le pouvoir exécutif qui fait partie du législatif.
Exact.
Le premier ministre a, en fin de compte, tellement de pouvoir ici comparé au président, par exemple, en France.
Ouais. Il y a aussi là-bas le nombre d'habitants par député en moyenne. Il y a vraiment beaucoup plus d'habitants que dans le système québécois.
Il y en a combien?
Ils ont 577 députés pour un total de 65,5 millions d'habitants. Donc, ça fait un député pour 113 000 habitants en moyenne.
Ah oui.
au Québec, on a 125 élus au provincial. Pour 8,3 millions d'habitants, ce qui représente un élu provincial pour 66 600 habitants. Donc, c'est presque le double d'habitants pour le même nombre de députés.
Oui, c'est assez intense.
C'est quand même impressionnant. Il y a aussi des élections sénatoriales qui se passent en septembre cette année, vraiment plus tard encore une fois. Ça élu les 348 membres du Sénat. C'est fait par suffrage indirect cette fois-ci. Il y en a 300. Ça, c'est un système assez... je trouvais vraiment particulier, mais c'est pas une mauvaise idée. Il y en a 336 sur les 348 qui sont élus par un collège électoral de représentants des départements, des régions, des communes et des collectivités outre-mer. Et il y en a 12 qui sont élus par l'Assemblée des Français de l'étranger. une assemblée qui compte 150 membres élus par des Français qui vivent en dehors de la France.
Oui, donc beaucoup de Français qui sont installés au Canada, par exemple, peuvent s'inscrire sur la liste électorale de ces départements, de ces, dans le fond, du département des Français outre-mer, des Français à l'étranger, et peuvent voter pour ces députés-là, dans le fond, ces sénateurs-là qui vont les représenter. Ce qui est assez intéressant comme particularité.
Quand même, quand même. Et je vais conclure avec les candidats cette année. Ceux qui sont au top des sondages, parce que je ne ferai pas la liste complète, parce qu'il y en a, plus que le nombre de députés qu'on a au Québec. Comme pour vrai, il y en a tellement. Ça n'a pas rapport. Mais en tout cas, j'ai pris les cinq qui sont au top des sondages.
Oui.
Emmanuel Macron, qui est pour le parti En Marche, qui indépendant d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. C'est pas un parti, là. C'est,
c'est un mouvement.
C'est un mouvement.
Mouvement en marche.
Un mouvement.
C'est pas un parti.
Un mouvement.
Disons ça
partisan.
Comme ça.
C'est ça. Mais Corinne va élaborer là-dessus plus tard. Il y a Marine Le Pen, très connue, Marine Le Pen, du Front National. J'élaborerai pas plus sur le sujet.
Non, surtout qu'on a beaucoup parlé de Trump dans les dernières semaines.
Non, c'est ça, ça reviendrait du pareil.
Puis
même.
De temps en temps, on a parlé de Marine par la bande.
Marine, c'est ça. Il y a François Fillon, des Républicains. Il y a Benoît Hamon du Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon du mouvement du Parti France Insoumise, le FI. Le FI. C'est pas mal ça. Il y en a d'autres, mais ils sont obscurs.
Bon, mais en deuxième partie d'émission, on va avoir Corinne qui va nous parler un peu plus de toutes les controverses qui affligent cette élection-là. Ben, merci beaucoup, Charles, de nous avoir fait un petit tour d'horizon de la politique française.
Ben, y a pas de problème.
Donc voilà, nous nous étions entretenus avec Charles plus tôt à l'émission. Maintenant, vous allez entendre la chanson « Nouveau Sidobre » de
Charles,
l'artiste
toi, ce soir,
Barbagallo.
Vous parlez de la politique
en principe, vous allez entendre ça, excusez-moi.
Une femme sublime qui t'est en...
Vous venez d'entendre la chanson « Nouveau Cidobre » de l'artiste Barbagallo, un artiste français pour aller avec le thème de l'émission « Les élections françaises ». Donc on s'excuse encore pour les petits pépins à la régie, c'est ma première fois. Vous inquiétez pas, ça va s'améliorer dans les prochaines semaines. Donc maintenant, en deuxième partie d'émission, nous avons notre correspondante à l'étranger, Corinne, qui est de retour de son échange à Paris, qui va nous parler, en fait, de ce qui se passe en ce moment en France de ce cher Emmanuel Macron.
Oui, alors j'ai choisi d'analyser le nouveau phénomène Macron en France, hein, un candidat qui fait beaucoup parler de lui actuellement. Donc, quand on regarde les sondages, il est à côté de Marine Le Pen pour la plupart d'entre eux, bien qu'on sache qu'il faut prendre ces sondages avec un grain de sel, hein, si on pense à la surprise qu'on a eue cet automne.
Oui, l'échec du data journalisme, l'échec de la prédiction du Brexit, l'échec de la prédiction de la victoire de Trump. On va essayer de garder une certaine distance avec les sondages.
Exactement. Il faut faire attention, mais c'est quand même un outil qui peut nous en dire un petit peu plus sur la situation. Et pour l'instant, donc, Macron et Marine Le Pen seraient en tête. Alors, le Parti socialiste est en mauvaise posture, puisque Hollande a eu le pire score d'insatisfaction de l'histoire de la République. Donc, ce n'est quand même pas rien. Assez difficile de se remettre de ça avec M. Hamon. Et à droite, on a Fillon qui est actuellement sous enquête pour des allégations de népotisme. Alors, on peut dire que le Parti républicain n'est pas en très bonne posture également.
Non, effectivement.
Donc, qu'est-ce qu'on entend de la part d'électeurs de droite ou de gauche? C'est qu'il faut voter pour Macron au premier tour pour bloquer l'ascension de Marine Le Pen. Normalement, on a deux tours pour l'élection présidentielle. Et habituellement, il y a un dicton qui dit que le premier tour, on vote selon nos convictions profondes et au deuxième tour, on élimine. Mais cette situation se renverse actuellement puisque pour plusieurs, Le Pen, hein, qui répond aux insécurités identitaires et sécuritaires du pays, notamment exacerbées à cause des attentats terroristes des dernières années, il y a plusieurs personnes qui veulent voter pour le parti qui, ben, le mouvement, en fait, Macron, qui est en voie de l'emporter. Donc, c'est ce qui se passe actuellement.
Et puis, c'est qui, ça, Emmanuel Macron? Parce que s'il est premier, s'il est en tête, s'il devient président, lui, est-ce qu'il sort de nulle part ou...
Ben, un petit peu, on peut dire ça. Il y en a plusieurs qui vont le qualifier d'étoile filante parce qu'il a commencé très rapidement à faire parler de lui. Alors, pour débuter, il a étudié à Sciences Po, donc l'école où je suis justement allée faire une session à l'étranger. Et c'est un peu presque un passage oublié, hein, parce qu'il y a beaucoup de candidats dans la politique française actuellement qui passent par ce cheminement-là. Donc, l'Institut des sciences politiques de Paris, ensuite l'ENA, qui est l'École nationale d'administration, qui va finir son école en 2004. Et par la suite, comment ça fonctionne en France, c'est que les meilleurs étudiants, ceux qui ont les meilleurs scores, sont capables de choisir l'affectation de leur poste en premier. Donc, c'est comme ça que Macron, avec de très bonnes notes scolaires, se ramasse à l'inspection des finances, qui est un tremplin absolument merveilleux pour la scène politique française. Il a également travaillé à Rothschild, qui est une grande banque d'affaires française, en 2008. On dit que lui, qui aurait été un des meilleurs banquiers d'affaires français s'il serait resté dans cette profession-là. Donc, pour plusieurs, c'est vraiment un phénomène Macron très articulé, très jeune, très ambitieux. Donc, il devient ministre de l'économie dans le gouvernement de Valls sous Hollande en 2014, ce qui démontre vraiment l'image de renouveau que veut prendre le gouvernement, hein, qu'il est capable de gérer une situation économique assez difficile. Donc, Macron, c'était le pari de faire ce travail-là.
Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Macron, est-ce qu'il a quitté le gouvernement de Hollande, de Valls,
oui,
j'imagine?
Exactement, c'est ça qui est arrivé. Donc, Macron, en fait... tous les députés français ont l'ambition de faire une loi dès les premiers débuts de leur carrière pour consolider leur autorité, leur stature dans un système politique qui est assez, comment je pourrais dire, qui est assez difficile d'accès. Donc Macron, c'est ce qu'il ne tarde pas à faire. Il fait la loi Macron qui a pour ambition de déverrouiller l'économie française, qui a dû passer au 49-3. Donc, c'est un article de la Constitution française qui permet de faire l'adoption d'une loi sans faire voter le Parlement législatif, puisqu'on avait peur qu'il y ait de l'opposition à cette loi. Et le gouvernement considérait que c'était une urgence à ce moment-là. Ce qui aurait pu être la loi Macron 2, finalement, devient la loi du travail M. Khomri. Celle-là, vous l'avez peut-être entendu parler jusqu'à ici. Il y avait pour but d'assouplir le droit du travail et finalement, c'est devenu des grosses protestations au printemps passé en France, hein, avec beaucoup de manifestations, beaucoup de mécontentements qui étaient notamment accusés de privilégier l'entreprise au détriment du travailleur. Donc, avec un parcours assez tumultueux, qui a été marqué aussi par plusieurs tensions avec Hollande. Hein, plusieurs personnes remettaient en question sa loyauté. Il a fallu qu'Hollande réaffirme dans les médias plusieurs fois que Macron était toujours sous son autorité, ce qui est très important dans la politique française, que Macron oui. était tenu à la responsabilité gouvernementale. Mais de plus en plus, on remarque qu'il fait cavalier à part. Il finit par démissionner en août 2016, quelques mois après avoir fondé son mouvement En Marche.
Le mouvement En Marche, c'est quoi cette bibitte-là, rapidement? Parce que lui, il veut dans le fond... s'enlever les étiquettes qu'on veut lui apposer. Il veut se présenter, bon, dans le fond, comme étant un renouveau dans la politique.
Exactement. Il veut vraiment se départir des étiquettes traditionnelles qu'on trouve en politique. Donc, il se dit, c'est un mouvement qu'il se dit transpartisan. Donc, lui, Macron, ce qu'il considère, c'est que le libéralisme, ce n'est pas une valeur ni de la droite ni de la gauche. Donc, il s'affirme comme étant avoir dépassé le clivage traditionnel idéologique de la gauche puis de la droite. Macron a une vision qui est assez gestionnaire de l'État, qui, bon, gère l'État, les économies de l'État comme un portefeuille, presque un père de famille. Mais avec l'argent qu'on réussit à faire avec ça, on préconise un socle de solidarité collective qui, finalement, va compléter sa proposition économique.
Donc, lui, est-ce qu'il se présente un peu comme un candidat d'extrême-centre?
Non, il rejette également l'étiquette de centrisme. On voit un peu peut-être l'apanage d'une génération de ne pas vouloir se catégoriser et se définir. Donc, il ne se dit pas du centrisme non plus, mais va se revendiquer parfois de l'universel aussi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs soutiens à droite du Parti socialiste, mais aussi pour une partie de la droite, hein, avec ses politiques de rétablissement des finances publiques, libre marché et régulation. Mais se considère pas un socialiste, mais il est un peu de la gauche parce qu'il veut amener beaucoup d'argent dans la politique sociale et a refusé de participer à la primaire de gauche parce qu'il dit que c'est des querelles de clans. Bon. Donc, il veut vraiment se détacher du statu quo de la politique française.
Il veut se détacher, puis peut-être que ça va lui servir. On va en avoir le cœur net en mai. Mais dis-moi, c'est quoi le point de vue des médias par rapport à tout ça? Ton point de vue par rapport aux médias, par rapport au traitement médiatique de Macron?
Bien, Macron, actuellement, ce qui fait qu'il est en tête dans les sondages, c'est qu'il jouit depuis son court parcours politique d'une très bonne image. Peut-être aussi que ça explique ça. Quand on est là moins longtemps, on a moins le temps de faire des erreurs et d'avoir une mauvaise presse. Donc, très bonne image dans les magazines également. S'il fait plusieurs unes de journaux, c'est vraiment, là, il est qualifié de nouvelle star. Hein. Il attise les ventes également comme figure. Donc, bien sûr, les médias adorent utiliser son image. Il est jeune, il est éloquent, il est très ambitieux et surtout, il contraste avec la tradition gouvernementale. Il y a eu un incident, par contre, qui est quand même assez intéressant de mentionner parce que je trouve que c'est assez révélateur de sa personnalité. Parce qu'il va proclamer, bon, bien sûr qu'il est pour l'intérêt général, pour le travailleur, il se met vraiment dans une position, peut-être que ça va avoir des limites, hein, mais pour l'instant, il se met dans une position où il essaie d'avoir tous les gens de tous les côtés. Mais pendant que les esprits étaient échauffés, au printemps 2016, il était en Provence, dans un contexte informel, et il y a eu une altercation avec un syndicaliste qui lui a fait une remarque sur son costume, hein, parce que Macron se présente toujours très bien dans des costumes faits sur mesure.
Un peu à la André Boisclair.
Oui, exactement, mais avec peut-être un niveau de plus au niveau de la marque là, française. C'est des vêtements qui sont très hors de prix. D'ailleurs, au cours de ses années de banquier d'affaires, il a fait des salaires annuels de plus de 2 millions d'euros. Donc, pour plusieurs Français, là, ça démontre qu'il est...
C'est pas un gars du peuple.
Non, c'est ça, mais il est capable, tu sais, de réussir dans la finance. Bref, le syndicaliste lui avait dit, lui avait fait une remarque sur son costume et lui avait répondu « La meilleure façon de se payer un costume, c'est de travailler. »
Ouf!
Alors, on voit qu'il y a un petit fossé quand même hein, entre oui. une certaine...
Il est peut-être un petit peu déconnecté ben oui, à ce niveau-là. Ça. Mais dis-moi, Est-ce que, dans le fond, le succès de Macron s'expliquerait pas par le fait qu'il maîtrise bien la nouvelle politique, la politique 2.0, 3.0, comme on veut l'appeler, avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, etc.? Bien,
moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression, hein, parce que pour plusieurs, les affirmations de Macron qui sont souvent polémiques, hein, parce qu'il critique des méthodes françaises assez traditionnelles, assez enracinées, et on va qualifier ces sorties publiques de macronades, parce que certaines personnes vont dire que il présuppose une inexpérience politique, une immaturité ou une spontanéité qui ne cadre pas dans la politique française actuelle. Mais il y a d'autres personnes, et moi je suis plutôt de cet avis-là, qui vont penser que c'est plutôt une stratégie de campagne électorale développée selon des méthodes qui sont issues du marketing. Je trouve que ça nous rappelle un peu qu'est-ce qu'on a vu ici avec Justin Trudeau. Hein. On lance un candidat qui est très éclatant, qui est beau, qui est finalement lancé comme un produit presque commercial. Et par une utilisation très importante des réseaux sociaux, il va être capable de finalement de lancer des polémiques qu'on va appeler le wedge politique. Donc, on tente de cliver l'opinion publique sur un sujet polémique et on espère en retirer des gains politiques. On espère de se faire représenter davantage dans les médias et de gagner du capital politique, finalement.
Est-ce que c'est un peu un wedge politique qu'il a fait quand il a affirmé que, bon, la colonisation de l'Algérie et des autres colonies françaises étaient des crimes contre l'humanité?
Ben, effectivement, tu me devances un petit peu parce que la notion de crime contre l'humanité, ça a été introduit avec le massacre de la Shoah et qu'est-ce qui en est découlé après. Donc, on s'entend que c'est quelque chose de très fort et on tente en sortant... Qu'est-ce qu'on risque, en fait, c'est d'aller chercher les jeunes hein, qui sont très affaits au fait des politiques coloniales et néocoloniales françaises qui veulent accepter, voir qu'est-ce que ça a fait comme conséquence dans les pays qui ont été colonisés. Et de l'autre côté, on a une partie qui est un peu plus âgée, un peu plus de droite, qui s'apparente plus au Front national.
Qui a aussi vécu la guerre d'Algérie, par exemple.
Également.
Il y a des familles qui ont été déchirées là, dans ces événements tragiques-là.
Ben oui, puis eux, ils continuent de dire que c'était dans des bonnes intentions, dans l'intention de partager les droits humains et les lumières. Mais Macron, à ce sujet, il va dire une phrase qui est assez évocatrice, c'est « La France a apporté là-bas ses droits et libertés, mais a oublié de les lire. »
Et puis, rapidement, en conclusion, qu'est-ce que tu penses de cette candidature-là?
Ben, pour l'instant, Macron, il fait quand même un pari risqué, mais il présente un renouveau comme sortir des modèles traditionnels qui plaisent à certaines personnes. Donc, son défi présentement, c'est de rassembler des candidats pour chacune des 777 circonscriptions les 11 et 18 juin, ce qui est beaucoup, hein, parce qu'il est parti d'absolument rien, Macron. Il y a des règles très exigeantes, donc il veut la parité, mais il veut également que la moitié vienne de la société civile. Donc, pour sortir un peu du problème de l'existence des politiciens professionnels, hein, parce que plus de 40% des députés français le sont depuis plus de 10 ans à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un renouveau, c'est quelque chose de très moderne et actuel qui se prétend sortir de la politique, mais est-ce vraiment possible de se prétendre au-dessus de la politique droite-gauche, surtout en France? J'en doute.
Surtout quand on sort aussi d'un milieu tellement favorisé.
Oui, exactement, privilégié. Un peu au-dessus de...
Etc.
Mais ça, il ne détonne pas du paysage politique à ce niveau-là en France actuellement.
Exact. Bien, merci beaucoup, Corinne, pour
plaisir.
Ta première chronique. C'est tout le temps dont on disposait. Vous écoutez la photomédia sur choc.ca. On se laisse en chanson avec « Sous garantie » de Malik Djoudi sur son album « Sainte Pop ».